L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse et non de les former en spécialistes. Albert Einstein, né à Ulm, en Allemagne, le 14 mars 1879, mort le 18 avril 1955 à New Jersey. Physicien, prix Nobel de physique en 1921 et auteur de la célèbre formule E égale MC2. Tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 3 juin 2023 sous un beau soleil. Bienvenue sur Radio Valois-Mulsien dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Notre thème du jour, école maternelle. Pour cela, nous recevons au studio Madame Bisson-Laurence, professeure des écoles maternelles moyennes et grandes sessions, et au téléphone, Madame Chrétien-Marise, présidente de AGEM, Association Générale des Enseignants des Écoles et Classes Maternelles. Nous allons donc demander à Laurence d'abord de se présenter.
Oui, bonjour, je suis donc Laurence Bisson, professeure des écoles en maternelle. J'ai actuellement une classe de moyens et grands, voilà.
D'accord, tu connaissais AGEM, tu connaissais l'association?
Non, je ne connais pas AGEM.
D'accord, bon ben, ça va faire l'occasion de connaître.
Demandez à Maryse de se présenter.
Bonjour à tous. Alors, Maryse Chrétien, je suis effectivement au téléphone sous un beau soleil aussi. Et je suis la présidente nationale de l'Association Générale des Enseignants des Écoles Maternelles Publiques, et c'est AGEEM, une association qui existe depuis 1921 déjà, qui a fêté ses 100 ans et qui a pour but de promouvoir l'école maternelle, de défendre les intérêts des enfants et des enseignants. C'est une association qui a des sections dans chaque département. Et Laurence, j'espère que vous pourrez nous rejoindre.
Je vais me renseigner et oui, pourquoi pas me rapprocher de l'association.
Alors, avant de commencer, je voulais passer un petit mot à notre ministre en lui disant qu'il était en train d'essayer de nous faire, avec l'éducation nationale, un petit jeu d'échecs. Et ce matin, je lui ai dit, comme ça, qu'aujourd'hui, nous allons lui faire un échec maternel.
Ah, bien, joli, joli, joli.
Sylvie, peux-tu nous présenter le thème du mois?
D'accord. Alors, l'école maternelle a été créée le 16 juin 1881 par une loi proposée et défendue par le ministre de l'Instruction publique, qui était donc à l'époque Jules Ferry, qui définit l'école maternelle publique comme une école gratuite, laïque, mais non obligatoire. Elle deviendra obligatoire par l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Nous sommes avec la Hongrie, les deux seuls pays européens à rendre l'instruction obligatoire à 3 ans. Alors, il y a Pauline Kergomar, inspectrice générale de l'école maternelle, qui va œuvrer entre 1879 et 1917 à l'évolution de l'institution. Elle a comme précepte « L'enfant est à l'école maternelle pour développer ses facultés, non pour apprendre ». On voit que les temps ont un petit peu changé. Elle préconisait déjà à cette époque des idées très avant-gardistes. Respect du petit enfant, pas d'exercice trop scolaire, le jeu comme forme naturelle de l'activité du petit enfant, l'approfondissement de la psychologie de l'enfant, l'adaptation des locaux d'accueil et du mobilier. Les temps ont changé en 2018, donc Jean-Michel Blanquer parlait d'une école du langage et de l'épanouissement. L'école maternelle doit donner l'envie d'aller à l'école, mais aussi d'apprendre. Quel est le rôle et l'objectif de l'école maternelle aujourd'hui? Qui se lance, Maryse ou Laurence?
Alors moi, je voudrais bien me lancer pour revenir un petit peu sur l'histoire par rapport à ce que vous venez de dire.
Bien sûr, vas-y.
Vous venez de parler de Pauline Kergomar, et Pauline Kergomar, c'est l'inspectrice générale qui nous a aidé à fonder l'AGEEM, pardon.
D'accord.
Et c'est vraiment très très important, oui, oui. L'AGEEM a évolué avec l'école maternelle ou vice-versa. Et effectivement, c'est grâce à Pauline Kergomar, à une autre personne, Madame Le Saint, qui a fait en sorte qu'on crée l'association en 1921. Et en tout cas, Pauline Kergomar a vraiment œuvré aussi avec nous. Et vous parlez de la création de l'école maternelle en 1881 avec Jules Ferry. J'ajoute le nom de Ferdinand Buisson, puisqu'ils étaient deux aussi. Alors, ils n'étaient pas ministres, effectivement. Et Ferdinand Buisson nous a accompagnés aussi à la création de l'école maternelle, à avancer sur l'école maternelle. par des aides pour la création de notre association AGEM. Donc vous voyez, l'école maternelle, toute cette histoire, c'est vraiment très très lié.
J'ai juste une petite question, hein, excuse-moi Maryse, mais Ferdinand Buisson était professeur, il était quoi exactement au niveau de l'éducation nationale ?
Il n'était pas professeur, il était peut-être la politique à l'époque.
D'accord.
Et ensuite, ben, Ferdinand Buisson, il a accompagné autour de l'école maternelle, il nous a aidés avec chez Nathan. Pour qu'on puisse avancer, enfin c'est pas pour que nous, hein, c'est, en tout cas c'est pour que la GEM puisse avancer, et il a été vraiment d'une grande aide à notre association d'un point de vue de la reconnaissance, d'un point de vue de l'aide, de l'accompagnement, voilà. Et puis surtout, lui, il a été aussi président de la Ligue de l'enseignement à un certain moment donné, ouais, c'est ça.
D'accord, c'est toujours intéressant de faire un petit point historique,
voilà. Voilà, comme tu le soulignais par rapport à la création de l'école maternelle, effectivement, on va dire que Fernand Buisson était dans l'ombre un petit peu de Jules Ferry, mais voilà, ce sont deux personnes qui ont vraiment œuvré, en tout cas, à l'école maternelle.
Mais il y a toujours beaucoup de personnes, hein, qui œuvrent dans l'obscurité.
Tout à fait.
Voilà. Donc oui, alors je te posais comme question, quel est le rôle et l'objectif de l'école maternelle d'aujourd'hui ? Laurence ?
Oui, alors effectivement, je pense que donner goût à l'école, c'est la mission la plus importante dès le plus jeune âge. Donner envie aux enfants de venir à l'école, hein, il faut que ça reste quelque chose d'agréable et leur donner envie d'apprendre. Et au-delà des apprentissages purement scolaires, l'enfant, il va surtout apprendre à vivre avec les autres. Je pense que c'est le collectif, c'est une part importante des objectifs parce que c'est un grand changement pour les enfants lorsqu'ils rentrent à l'école, hein, qu'ils soient même à la crèche ou peu importe. Là, on arrive vraiment dans une classe. Il faut apprendre à vivre avec les autres. Et puis, bah, ils vont s'initier au fonctionnement de l'école, découvrir l'école, comment fonctionne l'école, avec ses règles, avec le cadre. Et je pense vraiment que c'est déjà les premiers objectifs de l'école maternelle.
Maryse, tu as quelque chose
Oui, pour poursuivre, parce que c'est important ce que dit Laurence, et en même temps, on se rend compte, on sait que l'école, elle est créée depuis un certain temps déjà. Alors, c'est quoi son rôle aujourd'hui, hein, à ce 21e siècle ? Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qu'on souhaite de plus ? On a traversé des temps avec, la place au jeu, la place dehors, des apprentissages, des obligations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut ? On veut un vrai parcours de réussite pour l'élève, comme le dit Laurence, qu'il soit accueilli avec bienveillance à l'école et qu'on puisse l'accompagner tout au long de sa scolarité. Alors ça, c'est certainement à retravailler, à penser, à réfléchir. On parle d'épanouissement, de bienveillance, d'accueil, de développement. Bon, je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission. C'est aussi les objectifs du plan maternel.
Oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose de comparer ce qu'il y avait il y a 100 ans avec ce qui se passe aujourd'hui ?
Non, il ne faut surtout pas comparer, c'est pas ce que je dis, on compare pas simplement, on se rend compte que dans l'histoire, et moi je me dis qu'on revient toujours à des choses qui existaient avant, on parlait du jeu avant, on parlait de l'éducation à la santé avant, c'était les objectifs des salles d'asile, et aujourd'hui on reparle de l'éducation à la santé, éducation à la santé au sommeil, qu'on se rend compte que les enfants ont une baisse du temps de sommeil, éducation à la santé à cause des écrans, ou par les écrans, ou via les écrans, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, c'est une répétition, et je pense, mais ce sera la conclusion, j'ai bien vu les objectifs, qu'est-ce qu'on souhaite pour la prochaine école, c'est en fait, on a besoin, et c'est la société hein, qui évolue aussi, et c'est normal, hein, donc du coup, on a de nouveaux enfants, on a de nouvelles familles, vous voyez bien, on a un nouveau modèle parental, on a une nouvelle société en lien avec le travail. Donc, c'est pas pour dire c'était mieux avant, c'est mieux maintenant, c'est mieux plus tard, c'est, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut quand on prend un enfant de 2021 ? Voilà, qu'est-ce qu'on veut quand il arrive à l'école ?
Alors, c'est vrai, comme tu nous le disais, hein, bon, on nous parle de l'école de la bienveillance, de l'épanouissement, du bien-être, de la réussite et de l'égalité des chances, de la mixité, de la cohésion sociale. Et pour vous, comment bâtir une école de l'inclusion et de la réussite pour tous dès la maternelle ? Le plan maternel de M. Papniad, donc, sera-t-il suffisant pour réduire les inégalités sociales ? Car nous savons que chaque enfant arrive avec son propre langage, son vocabulaire plus ou moins riche. Et chez l'enfant, le langage passe souvent aussi par le jeu, le dessin, et peut-être aussi par le langage, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez à dire, effectivement, comment inclure et faire réussir chaque élève?
Alors, effectivement, le plan maternel donne la priorité au langage. C'est pas nouveau, en fait. Il y a longtemps que c'est un axe prioritaire, surtout dans les zones REP. Donc, effectivement, le langage, c'est la base de la construction de tous les apprentissages. En fait, on nous dit que l'enfant, tant qu'il n'a pas vraiment verbalisé ce qu'il a appris, il n'a pas réellement peut-être appris. C'est important de leur faire verbaliser. Et puis, on a des nouvelles aussi méthodes de travail qui sont largement employées par les enseignants, comme Naramus, ApprentiLang, qui remettent vraiment le vocabulaire en priorité. Le vocabulaire, la compréhension et la narration, raconter une histoire, par exemple, avec Naramus.
Naramus, excuse-moi, c'est vidéo, c'est...
Alors, effectivement, c'est des méthodes qui utilisent le numérique. On projette des images pour associer le mot, l'image. Donc, on apprend du vocabulaire. Et puis aussi, il y a une histoire, en fait. On déroule l'histoire très progressivement. On apprend l'histoire au fur et à mesure. Donc, il y a la partie, vraiment, on lit le texte. Et après, on raconte aussi. On voit la différence entre les deux. Et on fait raconter les élèves. On utilise ensuite une maquette avec les personnages de l'histoire. On fait aussi jouer en théâtre, en fait, les enfants. Et tout ça les aide à verbaliser. Le but final, c'est qu'ils puissent raconter à la maison l'histoire. Donc voilà, on utilise déjà le vocabulaire et le langage.
Propre à une maternelle. Histoire, voilà.
Voilà, c'est un exemple.
Oui, c'est un exemple, bien sûr. Oui, tu voulais rajouter quelque chose parce que je t'ai coupé en plein élan.
Non, voilà. Le deuxième axe, c'est les mathématiques aussi, et la résolution de problèmes. Donc, pour moi, ce n'est pas des nouveautés. Il y a longtemps qu'on y travaille. Mais on met l'accent sur ces deux points-là, on va dire.
Maryse, tu veux rajouter ?
Oui, pour compléter complètement ce que dit Laurence. Le premier enjeu, c'est le développement de l'enfant. Et ça, c'est vraiment très important dans ce plan maternel, parce que c'est ce qui va nous permettre de bien comprendre l'enfant, son développement et son cerveau. Et là, c'est tout le travail des connaissances avec Grégoire Borst, avec qui nous travaillons effectivement. Et là, c'est au service de la mixité sociale, c'est-à-dire des élèves qui ont des besoins aussi particuliers. Parce que quand on connaît comment fonctionne le cerveau, on peut travailler au sein de sa classe, on peut travailler avec le périscolaire pour accompagner l'enfant sur la réussite. Parfois, alors Laurence parle de Naramus, c'est très important de savoir quelles consignes nous aussi, enseignants, nous utilisons, quelles postures nous aussi, nous utilisons dans la classe. Et ça, effectivement, avec des enfants qui passent plus de temps devant les écrans, avec des enfants qui ont une multiplicité d'activités à l'extérieur, qui ont un modèle parental qui est différent, eh bien, on a besoin, nous, de le savoir, tout ça, de savoir comment fonctionne ce cerveau pour les accompagner le mieux possible dans cette résolution de problèmes, comme le dit Laurence, en écoutant des histoires. Et notre association fait en sorte de travailler avec des partenaires, à TD Carmonde, par exemple, de travailler avec des partenaires aussi de maisons d'édition pour pouvoir accompagner et changer ensemble. Qu'est-ce qui convient le mieux aux enfants, là, maintenant? Comment est-ce qu'on fait, nous, pour s'acculturer aussi à tout ce qui est, à tout ce qu'on voit, j'allais dire, qui se crée de plus en plus? Donc, c'est aussi un temps dont nous avons besoin pour se former, parce que Naramus, ça demande un petit peu aussi de temps pour savoir comment ça fonctionne, comment on va l'utiliser dans la classe. Et sur la mixité, je ne suis pas sûre que le plan maternel favorise la mixité. Ça n'est pas dit clairement comme ça. Je pense qu'il y a un autre axe à prendre pour qu'on puisse accompagner davantage, effectivement, tous les enfants au mieux sur leur parcours scolaire.
D'accord. Et vous, en tant que professeur de maternelle, justement, au niveau de la mixité, vous y travaillez comment ?
Alors,
avec des histoires, avec des dessins, comment vous faites pour travailler la mixité dans votre classe?
Qu'est-ce qu'on entend par mixité, en fait? Est-ce que c'est les différences sociales?
C'est ça.
Oui, alors j'ai pas, là où je travaille, je dois dire, j'ai pas réellement ce problème-là. Je pense qu'effectivement, il y a d'autres secteurs où c'est beaucoup plus... visible. Je pense que le vocabulaire, déjà, on le dit, hein, que les donner accès en fait au vocabulaire à tous les enfants va les aider à réduire cette mixité.
Cette mixité, oui.
Maintenant, on sait très bien qu'il y a des enfants qui, à la maison, ne baignent pas dans le français, malheureusement.
Oui.
Voilà.
Mais et puis, les parents ne lisent pas non plus d'histoire
exactement.
Pour autant.
Voilà. Mais on a eu quelques enfants d'origine étrangère et c'est vrai que, en fait, à la maternelle, ils apprennent assez vite le français, justement, avec l'interaction des autres. Peut-être plus que par les activités que nous, on peut mener en classe. Je dirais que l'interaction, oui, notamment à la récréation, des enfants qu'on peut ne pas peut-être entendre en classe parce qu'ils n'osent pas, on les entend discuter avec les autres,
à la récréation. Oui, ce qui est important aussi, souvent à l'école maternelle, c'est l'éveil. Et puis le développement sensoriel. Qu'est-ce que ça peut apporter, le développement sensoriel pour l'enfant ? Maryse ou Laurence, allez-y, hein, prenez la parole.
Alors moi, je voudrais revenir quand même sur la mixité, si tu permets.
Oui.
Ouais, sur la mixité, ce qui est important, c'est d'accueillir tout le monde et c'est d'accueillir toutes les familles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à l'école maternelle pour favoriser ce premier accueil, inclure les familles ? La mixité, c'est comprendre l'école, c'est comprendre le sens qu'on donne à l'école. C'est ça qui est important, parce qu'il y a des familles qui peuvent être éloignées de cette école, de ce qu'on y fait. Donc, la première des choses, c'est donner du sens à ce qu'on fait à l'école. Et ça passe par l'accueil de toutes les familles. Ça passe par de la littérature de jeunesse, des albums, ça passe par des activités communes, effectivement par du partage de coutumes, du partage de recettes, par du partage d'histoires. Voilà, ça aussi c'est la mixité. C'est prendre en compte tout le monde.
D'accord. Oui, du coup, je posais la question sur le développement sensoriel, à savoir qu'est-ce que ça apporte réellement aux enfants. On dit que c'est très important.
Bien sûr, c'est complètement la créativité. C'est la première des choses. L'enfant, quand il est à l'extérieur, quand il est à l'intérieur, il a un sens, il peut développer sa créativité comme c'est pas possible. Vous le laissez à l'extérieur, ils vont construire des cabanes, ils vont cueillir des fleurs, ils vont faire des choses de land art sans qu'ils le sachent. Développer tous les sens moteurs et tout ce qui touche autour de la vue, de la manipulation, de l'esthétique, c'est très important pour travailler aussi le langage. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On met en mots ce que les enfants sont en train de vivre, c'est-à-dire qu'ils le mettent en mots en direct quasiment. On donne du sens tout de suite à ce qu'on peut faire.
Laurence, effectivement, tu profites des fois de faire une sortie à l'extérieur pour justement apprendre d'autres vocabulaires aux enfants.
Oui, bien sûr. On a d'ailleurs fait une sortie scolaire autour de la vie de la mare. Donc là, on était vraiment en extérieur, forcément. Et puis, à la fois dans le visuel, dans le tactile, ils ont pêché des petites bêtes de la mare. Ils ont observé. Donc, on était aussi dans le langage. Et ça a été un moment très fort. Et après, quand on en reparle en classe, c'est très... ils savent de quoi ils parlent, en fait. Donc, c'est très vivant et c'est très riche.
Et puis, ça les rend peut-être un peu plus curieux aussi.
Tout à fait.
Maryse, tu voulais rajouter quelque chose ?
Tout à fait, c'est sortir à l'extérieur. Alors, on parle de classe dehors, hein, beaucoup.
Oui, beaucoup, ça vient à la mode.
Voilà, alors j'aimerais justement qu'on n'utilise pas ce mot à la mode, parce que la classe dehors, ça existe depuis... Non, mais tu as raison, mais c'est important qu'on remette
oui, bien sûr.
De ce qui existe. Hein. Oui. Voilà, dans les Deux-Sèvres, ça existe depuis déjà plus de 15 ans, c'est-à-dire des enseignants qui travaillent à l'extérieur et qui profitent de tout ce qu'on peut découvrir à l'extérieur. Et il faut savoir que faire classe dehors, eh ben, c'est une posture particulière, c'est-à-dire que quand on va faire classe dehors, c'est préparé, comme dit Laurence, là, tout le travail qu'elle a pu mettre en place autour de la mare. C'est une autre posture, c'est de la responsabilité, c'est de la curiosité. Et on a même une collègue dans les Deux-Sèvres qui travaille toute l'année dehors. Donc vous voyez, voilà, on a mis ça, c'est nouveau, c'est à la mode à cause de la Covid. Eh bien non, parfois, il faut qu'on sache remettre les choses à leur place. Et si d'autres collègues, effectivement, maintenant, vont plus dehors, eh bien, tant mieux, parce qu'on a tellement de cours bétonnés que les enfants ont besoin aussi de sortir.
Ah, on parle de revégétaliser les cours d'école, à voir si ça va se faire ou pas.
On aura peut-être bientôt des maternelles écolos.
Ça sera aussi
dès la maternelle, leur apprendre les premiers gestes de l'écologie.
Oui, parce
Les éco-gestes.
Ça commence déjà. Enfin, je veux dire, quand on travaille le potager dans nos cours d'école,
se laver les mains.
Un potager mis à disposition, on le fait déjà. Quand on travaille la plantation et le fait qu'on puisse accueillir des abeilles, on le fait déjà. Quand on travaille sur l'eau, et il y a beaucoup de bassins, je pense au bassin Normandie, qui accompagnent aussi des actions, on le fait déjà. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si on peut parler de maternelle écolo. En tout cas, ce que je vais dire, c'est que dès l'école maternelle, il se passe beaucoup de choses et que ça serait bien que ça se sache.
Tout à fait. Oui, souvent, on reprend les enfants quand ils se lavent les mains. Effectivement, on entend souvent les professeurs dire « Stop, on arrête de jouer avec l'eau ».
Ils adorent jouer avec l'eau, bien sûr. Mais cet hiver, on nous a demandé de faire des efforts au niveau économique. Je veux dire. Donc, on a fait très attention aux lumières, etc. Et c'est vrai que ça a sensibilisé les enfants à éteindre la lumière, à effectivement pas gaspiller trop d'eau, de papier aussi.
C'est ça, ouais. C'est pas Versailles ici. Il y a comme certaines pubs, voilà.
Alors, ils le disent à leurs parents, hein. Maman, coupe l'eau. Ou alors, quand on fait tout ce travail autour des ceintures de sécurité, maman, t'as pas mis ta ceinture, ou papa, t'as pas mis la ceinture, ou tu m'as pas accroché. Enfin, les enfants, voilà, quand on travaille avec eux sur ce genre de domaine, bah, ce sont eux les donneurs de leçons.
Nous, on a parlé des déchets. J'ai un élève qui a dit, mais maman, elle jette ses mégots par terre. Va falloir que je lui dise. Hein.
Voilà, nous, on avait fait les tri des déchets. C'est exactement ça. Après, ils disaient à leur mère, non, c'est pas ici, ça va dans ce bac-là, c'est trop mignon. Alors, on va parler de la rentrée en petite section de l'école maternelle. C'est un grand moment pour les enfants, mais aussi pour les parents. Appréhension du côté des petits, un cap à passer, un changement de rythme. Du côté des parents, même angoisse. Comment va se passer cette rentrée des classes, blablabla. Et on laisse souvent nos enfants avec un serment au cœur en se martelant pourvu que tout se passe bien. Ce moment délicat de la toute première rentrée va demander un accompagnement au niveau des enseignants, mais aussi des parents. Comment s'adapter aux divers comportements des enfants? Certains courent dans la classe pendant que d'autres pleurnichent. Avez-vous quelques conseils aussi à donner aux parents pour préparer l'enfant à ce changement?
Comment vous faites? Alors là, je veux bien commencer, moi, parce que je suis une maîtresse de plus d'un temps avec que des tout petits. Donc, ça me parle, l'accueil et ce premier accueil. Plusieurs points. Premièrement, si on évitait dans les médias de montrer des classes avec des enfants qui pleurent, ça n'est pas la réalité et ça m'agace, je le dis. Après, comment est-ce qu'on prépare une rentrée? Ben, évidemment, on anticipe. C'est-à-dire qu'il y a ce temps, effectivement, d'inscription. Il y a ce temps de l'accueil de la famille à l'école. Moi, j'aime bien accueillir sans l'enfant dans un premier temps pour qu'on puisse vraiment échanger sur l'enfant lui-même. Ensuite, un accueil qui peut se faire dans la classe, accueillir l'enfant dans la classe avec ou sans la famille sur différents temps. On peut avoir des enfants comme ça, des élèves de grande section qui peuvent être parrains, qui peuvent être tuteurs, qui accompagnent. En fait, si vous voulez, ça s'anticipe. C'est quelque chose qui se prépare, on met en mots. Et j'avoue que pour l'avoir fait depuis très longtemps, mon grande challenge, c'est qu'aucun enfant ne pleure à la rentrée. Et ben voilà, c'est réussi. Quand on explique, quand on accueille, quand on met en mots, quand on prépare l'aménagement de la classe, quand on permet aux enfants de respecter son développement, son rythme, et surtout quand on rassure les familles, c'est ce que vous avez dit, c'est ça qui est important. Parce que quand un enfant pleure, parfois en entrant à l'école maternelle, c'est parce que c'est maman qui ne va pas bien, c'est maman qui est très triste. Hein.
Ah, c'est toujours la mère qui prend, ça peut être le père aussi.
Oui, c'est moins quand même. Et je sais que moi, j'ai toujours échangé avec les mamans, je leur parlais de ma première fois aussi en tant que maman, de cette petite boule au ventre, et ils disent « Ah oui, ça vous arrive aussi ?» Mais oui, ça nous arrive aussi. Voilà, ça arrive à beaucoup de personnes, parce que c'est comme si on laisse son enfant, c'est de la culpabilité de se dire de le laisser, ben voilà, mais il faut qu'il sache à qui il le confie. Donc moi je leur dis aux parents qui nous écoutent, vous le confiez à des personnes qui sont sérieuses, passionnées, professionnelles, alors foncez.
Et toi, Laurence, tu accueilles, tu fais aussi un petit accueil avec les parents?
Oui, bien sûr, mais c'est plus rapide en moyenne section, grande section. Ils ont déjà plus l'habitude. Et puis, je dirais que plus c'est court et mieux ça se passe. Il faut que les parents nous fassent confiance, nous confient les enfants. Et une fois qu'ils sont partis, ça va souvent beaucoup mieux.
Alors, c'est vrai que dans certaines écoles, hein, quand vous venez de le dire, donc la rentrée en petite section se fait en douceur pour une rentrée progressive. Il s'agit là de faire quelques heures dans la journée ou d'aménager des demi-journées, ça dépend du système qui est pris. Et comment gérer les émotions des petits face à la socialisation parfois difficile, hein, apprendre à partager, à respecter l'autre, à accepter d'écouter la maîtresse. Quelles sont vos solutions quand un élève a du mal parfois avec les autres?
Alors, pour répondre là... C'est vrai que je n'ai pas parlé aussi de la personne très très importante qui est à nos côtés quand on a une classe de tout petit, c'est l'ATSEM, l'agent territorial spécialisé d'école maternelle. La présence, elle est vraiment précieuse parce qu'on est déjà deux dans la classe pour pouvoir accueillir les enfants et on a pensé l'aménagement de notre espace classe, c'est-à-dire là où l'enfant va pouvoir bouger, là où l'enfant va pouvoir se reposer, là où l'enfant sait qu'il va pouvoir retrouver un doudou par exemple ou le foulard de maman ou alors un petit mot écrit, enfin voilà. Qui fait l'objet transitionnel qui va aider ce passage. Cet aménagement de l'espace va favoriser le fait que les enfants puissent échanger ensemble. Et évidemment, comme ce sont des classes où il y a un nombre d'élèves important, bah, c'est la zone proximale de développement. On n'y peut rien. Quand on se rapproche trop l'un de l'autre, et ben, parfois il y a des petites tensions. Et ben, ça se met en mots, on peut expliquer, on peut accueillir l'enfant qui se sent un petit peu triste. On peut prendre par la main un enfant et l'accompagner un petit peu ailleurs parce que là, il est en train de déborder. Enfin, voilà. Ça me demande de l'énergie incroyable sur ces premières semaines d'accueil à l'école maternelle parce qu'on a des enfants qui étaient peut-être en crèche, en halte-garderie, à la maison, et puis ils se retrouvent tous. Ben, j'allais dire, c'est un petit peu nous aussi, hein, quand on se retrouve dans un grand groupe, qu'est-ce qui se passe, hein, c'est à observer aussi. Donc pour un enseignant d'école maternelle, deux petites sections, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une vraie posture.
Laurence,
je voulais revenir sur la préparation de la rentrée, c'est vrai. Mes collègues de petite section font déjà des journées portes ouvertes, donc là au mois de juin, hein, pour les élèves qui sont inscrits, pour les élèves de petits qui arrivent à la rentrée. Donc déjà effectivement, ils prennent connaissance des maîtresses, des locaux. C'est vraiment un échange aussi avec les parents. Donc effectivement, je suis d'accord avec le fait que ça se prépare bien avant la rentrée. Et puis le jour de la rentrée. Ils font une petite rentrée échelonnée qui permet d'avoir pas tous les enfants dès 8h30, mais en tout cas la moitié. Et le reste s'ajoute à la deuxième partie de la matinée. Bon, voilà. Donc, c'est des petits aménagements qui facilitent un peu.
Alors justement... Maryse parlait de gérer l'aménagement de l'espace. Alors parfois, vous avez des espaces très, très limités avec beaucoup d'élèves. Quelle sera donc votre priorité pour que les enfants s'y sentent bien, Laurence? Et puis après, Maryse, tu répondras.
Oui. Alors, c'est vrai que des fois, on aimerait bien pousser un peu les murs, hein, avoir des grandes classes. Mais ce qui est important, je pense, c'est que les espaces ils soient bien identifiés pour les enfants. Donc, il y a des petits repères, notamment au mur. Donc, on explique à la rentrée, en début d'année, où on peut aller, ce qu'on peut y faire. Voilà, c'est important. Et c'est important aussi de gérer le flux du nombre d'enfants dans chaque espace. Hein. C'est pour ça que les coins-jeux, ce qu'on a appelle les coins-jeux, ils sont limités et tout est bien identifié, c'est important aussi pour l'enfant. Voilà.
Maryse ?
Eh bien, pour poursuivre, effectivement, c'est là qu'on peut regarder le site Archiclasse et qu'on va pouvoir, désencombrer sa classe aussi, parce que parfois, dans nos classes, on a vraiment beaucoup, beaucoup de matériel et on peut le ramener au fur et à mesure. Et c'est surtout utiliser tout ce qu'on peut avoir à côté. Utiliser l'espace du couloir, utiliser l'espace de la cour de récréation, utiliser l'espace, effectivement, de la salle de motricité, hein, quand c'est possible, hein, bien évidemment. C'est-à-dire, tous ces espaces-là, peut-être qu'à un certain moment donné, mais c'est nous, hein, on se cloisonne trop à notre espace de la classe. Comment est-ce qu'on peut ouvrir cet espace? Je sais que ça pose des questions de responsabilité pour les collègues, et de toute façon, on les a sous les yeux et on est toujours responsable, quoi qu'il se passe. Donc, c'est plus on va ouvrir un petit peu cet espace, plus l'enfant va trouver d'autres espaces pour lui, où ils seront moins les uns sur les autres, et il va trouver des espaces qui vont correspondre aussi à ses besoins. Donc ça, c'est important aussi. Réfléchir, nous, à l'aménagement de cet espace, de ces espaces.
D'accord.
Alors, oui, c'est vrai que l'année dernière, je me suis lancée, j'ai mis un espace dans le couloir. C'est nouveau, en fait. C'est vrai que ce n'est pas forcément une démarche facile. Il faut pouvoir faire confiance. Mais ça, ils aiment y aller parce que c'est vrai que c'est, du coup, ça permet de sortir un petit peu de la classe aussi. Ils sont en petit effectif et voilà. Et c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas vraiment de problème de comportement parce que je les entends.
Oui, voilà.
mais je n'ai pas le visuel constamment. Mmh. Donc, c'était aussi une démarche de confiance et de se dire d'accord, on peut utiliser les espaces un peu à côté.
Et puis ça leur donne une certaine autonomie peut-être
tout
aussi.
À fait.
Ça
ouais.
les fait grandir aussi. Et c'est quoi cet espace alors dans le couloir?
C'est l'espace voiture, petite voiture, oui. Voilà.
Filles et garçons.
Oh, bien sûr. Mais en plus, c'est vrai que les filles, ils vont bien. Et pareil pour le coin cuisine, hein, les garçons adorent.
Hein. Adorent ça, oui, oui, oui. Moi, j'aimerais savoir comment se passe une journée type pour apprendre certaines routines aux enfants, hein, les moments, la journée entrecoupée par les jeux, les récrés, la restauration, la sieste, et tout ça en faisant attention évidemment au rythme de l'enfant. Mais le rythme de la journée doit être adapté à l'enfant. Vous vous organisez de quelle manière pour que l'enfant, justement, intègre bien petit à petit ces rituels?
Alors, moi justement, je commence par les rituels. On se regroupe directement parce que après, on a le premier créneau de la salle de jeu. Donc, contrairement à mes autres collègues qui commencent toujours par des petites activités où les enfants peuvent rentrer tout doucement dans les activités de la journée, nous, on fait le rituel en grand groupe avec des responsables de la date. On compte les présents, les absents. Et puis après, on commence par la motricité. Et je trouve que c'est bien aussi de commencer la journée par la motricité. On en parlait tout à l'heure quand vous disiez que votre professeur vous faisait courir un petit peu autour de la classe. Et bien là, je trouve que voilà, il commence la journée en y mettant un peu d'énergie, en investissant leur corps. Et après, on commence les ateliers de manière un peu plus posée.
Plus posée. Voilà. Maryse ?
Oui, alors pour compléter ce que dit Laurence, effectivement, c'est important, c'est donc de ritualiser, de donner des repères aux enfants qu'on peut matérialiser soit par une horloge, une montre, que sais-je, soit par des photos pour préciser le lieu, pour préciser le nom de la personne qui va peut-être intervenir avec nous en motricité, ça peut être la TSEM ou ça peut être une autre personne. Ce qui est important, c'est effectivement de repérer les temps de besoin des enfants. Et moi, je vais dire quelque chose qui peut-être va fâcher certains de mes collègues, c'est que la récréation, elle ne se fait pas en fin de matinée. Si on respecte le rythme de l'enfant, la récréation, elle se pose en milieu de matinée. J'ai toujours eu des tout petits, voilà, il fallait enlever les manteaux, remettre les manteaux, surtout quand c'est l'hiver et qu'il pleut, et je sors toujours dehors. Voilà. Perdre du temps pour en gagner, c'est très important, et respecter les rythmes de l'enfant. Donc Laurence disait, ben oui, c'est bien quand on peut démarrer une activité, ben voilà, qui bouge dès le début, tout à fait, mais quels sont les temps de pause dont l'enfant a besoin? Quels sont les temps où l'enfant a besoin, effectivement, aussi de prendre une collation? Alors je pense à de l'eau, hein, je ne pense pas forcément à manger quelque chose. Et puis ces temps où on va lui donner du sens, c'est-à-dire comment on ouvre une activité, on ferme une activité, on passe vers une autre activité. Et puis les enfants, comme ça, tout doucement, prennent appui sur la matinée et sur la journée.
Oh, d'accord. En moyenne section, et on fait signe. Intermède musical.
Thank you.
Nous venons d'écouter « Le berger de lumière » de Roger Calmel, sous la direction de Camille Bourouillou, à l'auditorium de la Maison de la Radio France. Notre thème du jour, école maternelle. Pour cela, nous recevons au studio Laurence Bisson, professeure des écoles maternelles moyennes et grandes sessions, et au téléphone, Maryse Chrétien, présidente de AGEEM, j'ai rectifié, Association Générale des Enseignants des Écoles et Classes Maternelles. Avant de reprendre, un petit billet d'humour. D'humeur.
Oui, un petit billet d'humeur. Donc, en écoutant tout ce qui est dit là, moi, je regarde par rapport au plan école maternelle 2023 qui veut se mettre en place. Bon, on voit sur les langues les choses qu'on a dit qui sont à l'intérieur déjà dites. Est-ce que c'est encore peut-être un énième plan qui va se mettre en place et qui est déjà où il n'y a pas trop de nouveautés dedans? Et moi, je regarde surtout, puisque nous, on est dans les écoles, les différentes écoles. Moi, je me pose surtout la question de est-ce qu'il y a aussi posé la question de l'évolution des structures, du matériel? Parce que nous, on le voit dans les écoles, c'est ça aussi qui fait défaut. Donc, c'est le matériel. Et ça sera peut-être une question dans le temps à se poser, de l'évolution des structures, du nombre d'enfants. Est-ce qu'il n'y aura pas non plus à revoir? Parce que moi, je vois aussi beaucoup, on voit beaucoup qu'il y a un grand nombre d'enfants dans les classes. Et ça, c'est tout ça. Peut-être dans le plan école maternelle, il y aurait eu peut-être cette question-là à se poser. Je ne sais pas si elle y est, mais à se poser le nombre d'enfants, l'évolution des structures, puisqu'on parlait d'écologie, revégétaliser, alors casser le béton. Enfin, il y a plein de choses, moi, qui me posent question de ce côté-là.
D'accord. Il y a quelqu'un qui veut répondre à Jackie?
Mais je veux bien. Merci, Jackie, pour ce petit billet. Qu'est-ce qui est nouveau, Jackie? Ce qui est nouveau pour nous, et je vous le dis, c'est très important, c'est le premier enjeu qui est noté dans le plan maternel, c'est le développement moteur de l'enfant. Il y a très longtemps qu'on n'a pas mis cela en avant, et pour nous, c'est important. Parce que ça veut dire une connaissance de tout le développement affectif, moteur, des enfants, prendre en compte vraiment leurs besoins, prendre en compte leur développement. Je dis pas qu'on est formé, hein. Je dis que c'est important de le noter. Et en tout cas, nous, notre association, fait tout pour qu'on puisse accompagner nos collègues sur une bonne connaissance du développement de l'enfant. Ça, c'est très important, ce premier enjeu. Le deuxième enjeu, avant les domaines qui arrivent ensuite, hein, premier enjeu, développement de l'enfant. Deuxième enjeu, l'éducation physique et sportive. On n'en parlait pas depuis un petit moment. Mmh. On parle d'APQ. Et moi, je dis qu'il n'y a pas d'APQ, d'activité physique quotidienne à l'école maternelle. Il y a des activités d'éducation physique et sportive. C'est important. Nous sommes là, nous, enseignants, pour respecter ce développement de l'enfant et mettre en place toutes ces actions motrices indispensables au bon fonctionnement, au bon développement de l'enfant. Donc ça, c'est important dans ce plan, Jackie. Et puis, mais je pense qu'on en parle un petit peu plus loin, je vais le dire maintenant, on ne parle pas de primarisation. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, nous, on le défend depuis très longtemps. Et sur les derniers paragraphes de ce plan maternel, c'est bien écrit que pour l'arrivée en CP, on prend et on part des compétences issues de la grande section.
Voilà, c'est ça. Oui, on va en parler un peu plus tard, parce que ça, c'est important de voir ceci. Alors, on en était où? Alors oui, donc en maternelle, il existe des doubles niveaux. Hein, le travail en groupe facilite sans doute l'organisation pour toi, parce que toi, t'es avec une double section, quoi. Et j'aimerais savoir si le fait d'avoir tant d'enfants, tu les fais travailler en groupe, est-ce que c'est bénéfique pour les enfants? Y a-t-il aussi peut-être une entraide entre petits et grands?
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'entraide. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de spontané, hein, c'est quelque chose qu'on choisit ou pas de valoriser, d'encourager. Mais c'est vrai que, alors, en début d'année, ça peut être simplement pour l'autonomie. Hein, on a des moyens qui n'arrivent pas forcément à fermer leur manteau. Donc, ils nous sollicitent, nous, adultes. Eh bien, des fois, on n'est pas disponible. Alors, je demande aux grands de nous aider aussi. Et ça les valorise. Les grands, finalement, aiment bien aussi aider les moyens. Et après, ça peut être aussi pour des activités un peu plus, un peu plus compliquées pour des moyens. Les grands peuvent aider volontiers. Après, il faut aussi, quand c'est sur les activités, apprendre à ne pas faire à la place de l'autre. Et là, c'est aussi un apprentissage. Parce que ce qu'on veut, c'est expliquer comment on doit faire, donner un petit coup de pouce, mais pas non plus faire à la place de l'autre. Donc, c'est toute la subtilité. Après, pour l'organisation du travail, il y a des moments où, du coup, je vais mélanger mes moyens, mes grands, justement, parce que j'ai envie de favoriser le tutorat, et d'autres moments où, au contraire, je suis obligée de différencier, parce que c'est quand même deux âges très, très différents. Vraiment, je trouve que de la moyenne à la grande section, il y a une marche, en fait, au niveau de l'évolution de l'enfant, au niveau de la maturité. Ils grandissent beaucoup à cet âge-là. Et donc, on peut pas faire la même chose non plus. Il y a vraiment des temps différenciés. Notamment pour le graphisme, on ne peut pas demander la même chose aux moyens et aux grands.
Oui, parce qu'il faut apprendre à tenir le stylo. Donc ça, la compétence arrive peut-être seulement en fin de moyenne section. Non.
Oui, tout à fait. C'est vraiment. Après, c'est variable selon les enfants, bien sûr. Mais oui, faire des boucles, par exemple, on ne va pas le demander en début de moyenne section. Mm-hmm. Hein, c'est trop tôt. Donc voilà, c'est important de différencier. Mais il y a les deux moments, les deux structures.
D'accord. Maryse, à ton niveau, tu fais travailler les enfants en groupe?
Oui, surtout, alors je voudrais parler de cette expérimentation. Nous, sur l'association, on a plusieurs collègues qui travaillent en classe multi-âge. Et effectivement, c'est-à-dire dans une même école, on peut avoir des collègues qui ont les trois niveaux, voire les quatre niveaux directement. C'est une autre organisation, c'est une réflexion sur le rythme de l'enfant, les besoins de l'enfant. Ce qui veut dire que les enfants, comme le dit Laurence, il y a du tutorat, il y a de l'aide, il y a de l'entraide. Il y a tout ce travail aussi autour du vocabulaire, de la mutualisation par les pairs. Et puis, il y a ces temps où l'enseignante va retravailler avec les élèves de moyenne section, les élèves de grande section. Et ça se fait de plus en plus parce que quand on a une classe avec les deux niveaux, trois niveaux, ça permet de travailler avec un petit groupe à un moment donné. D'où l'importance d'avoir l'ATSEM dans la classe, de travailler avec elle ou lui d'ailleurs, d'expliciter les consignes, d'expliciter nos postures, d'expliciter nos attentes. Ces classes multi-âge, pour le moment, on a des retours positifs et on va rencontre d'ailleurs dans nos congrès de comment ça se passe, des difficultés qu'on rencontre et puis comment on chemine pour avancer sur le graphisme, comme dit Laurence, pour avancer sur tout ce qui touche aux mathématiques, par exemple.
D'accord. Moi, j'aimerais savoir comment notez-vous les compétences, les difficultés de chaque enfant. Vos appréciations seront-elles notées sur un livret qui sera un outil de travail pour vous? Et comment formulez-vous les résultats aux parents si vous les formulez aux parents?
Alors, nous, on a un livret commun qui va de la petite section à la grande section, avec les compétences donc dans chaque domaine. Et on tamponne à la date lorsqu'on pense que l'enfant a acquis la compétence. Il n'y a pas de notes sur 20, bien sûr. Il n'y a pas d'ABCD. On montre les progrès de l'enfant sur toutes les années de la maternelle.
D'accord. Et toi, Maryse ?
Complètement, on note les progrès de l'enfant. On dit à l'enfant ce qu'il a réussi. C'est important, alors évidemment, de voir à quel moment l'enfant peut avoir des difficultés autour du langage. Mais le développement, si vous voulez, entre la rentrée d'octobre, de janvier, des enfants qui ont 3 mois de différence, ça se voit. Donc, on ne note pas par rapport à une date en janvier, ils doivent tous faire ça. Non, c'est on note l'évolution et le développement de l'enfant. Là, il a réussi. Il va continuer d'avancer. C'est important de dire, de positiver sur ce qu'il réussit parce qu'il avance. Ça serait si on savait des choses tous à la même date. Donc, on avance, c'est de l'évaluation positive. Alors, ça peut être noté, ça peut être en tout cas avoir des photos. Moi, j'ai des collègues aussi qui utilisent des tablettes pour prendre en photo dès que l'enfant a réussi une activité. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est comment on le dit aux familles. c'est important de dire aux familles. Moi, je reçois systématiquement les parents, premier trimestre, c'est un temps pour faire un point. On dit de là où on est l'enfant, ses réussites, des difficultés, le comportement. C'est important, dès le début, d'impliquer les familles dans cette évaluation.
D'accord. Je suppose que tu le fais aussi, toi, Laurence.
Oui, alors effectivement, je vais cibler plus les enfants qui ont un peu plus de mal. Bien sûr, on reçoit les parents pour leur expliquer voilà, et voir ce qu'on peut mettre en place avec eux.
D'accord. Et dans ce cas-là, comment réagissent les parents ?
Oh, bah, il faut tant qu'on amène les choses, voilà, ça se passe plutôt bien. Après, il y a des parents qui ont du mal à accepter. C'est normal, hein, tout à fait.
Moi, je voudrais parler des évaluations nationales de CP qui donc se font dès le mois de septembre à la rentrée. Alors, est-ce que ça met une pression sur les écoles maternelles et notamment sur les enseignants de la grande section ? Il faut donc préparer les enfants. Aurez-vous toujours le temps de permettre à chaque enfant d'acquérir les connaissances à son rythme ? On parle effectivement de primarisation de l'école maternelle. Si tel est le cas, il y aura évaluation des acquis pour chaque élève. Qu'en pensez-vous ? Là, on passe vers une compétitivité ou pas ? Qui veut répondre ?
Alors là, moi, je veux bien répondre.
Hein. Je m'en doutais.
Ah ouais, non, mais c'est pas de primarisation. Surtout que les enseignants de grande section de maternelle ne se disent pas il faut absolument faire tout pour que l'enfant réussisse les évaluations. Alors ça, non, non et non. Ces évaluations grande section, c'est quoi le but ? C'est à un moment donné de faire un état des lieux de là où on sent les enfants. Pour l'enseignant de CP de dire, ben voilà, certains sont à ce niveau-là sur l'écriture, sur le domaine des mathématiques, et c'est à l'enseignant de CP de faire évoluer tous ces apprentissages. En tout cas, ce n'est certainement pas aux enseignants d'école maternelle de faire en sorte de travailler encore plus et encore plus les enfants pour réussir les évaluations de CP. Alors là, je dis non et non. Et de toute façon, qu'est-ce que ça change ? Ces évaluations CP, elles sont là à un moment donné. Une image à un instant T. Et quoi ? On continue de travailler dans nos classes. On avance avec les enfants parce que c'est vraiment ça le plus important. Après, qu'ils utilisent ou non les évaluations, je ne sais pas à quel titre et comment ils les utilisent. Nous, on est là. Ce sont les acteurs du terrain avec les enfants les plus importants.
Alors, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je refuse de faire du bachotage pour préparer mes élèves aux évaluations CP. Hein. D'ailleurs, quand on regarde vraiment les évaluations et quand on voit des exercices qui ont vraiment été échoués, on se dit que ce n'est pas toujours un manque de compétences. Souvent, c'est la présentation de l'exercice même ou qui est tellement différente. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter des statistiques.
Mais est-ce que ça sert vraiment ces évaluations nationales de CP ? Moi, je ne pense pas, parce que les professeurs, ils vont avoir leur classe, ils vont faire évoluer les enfants, oui. Ils vont voir tout de suite ce qui ne va pas, les difficultés, et ils vont réagir. Donc, à quoi ça sert de faire des évaluations là ?
Ça sert à faire du buzz.
Du buzz.
Des statistiques.
Mais pour arriver à des passages en sixième où certains élèves ne savent pas lire, ne savent pas compter, est-ce qu'il ne serait pas important au moment de la maternelle ou dans ces classes-là de prévoir je vais prendre un mot qu'on n'aime pas, mais un redoublement d'une classe ?
Alors ça, non plus, ça ne sert à rien. Des enfants en sixième qui n'apprennent pas à lire, j'aimerais bien savoir qui, quand, quoi ou comment, parce que les élèves ont tous... savent tous faire quelque chose à un moment donné. Qu'est-ce qu'il fait qu'il n'y arrive pas ? C'est plutôt ça sur lequel il faudrait se poser comme question. Ça peut être l'environnement familial, ça peut être des situations de personnes qui arrivent de l'étranger. Enfin, voilà. Il faut qu'on arrête de dire ça, parce que ça m'insupporte et ça me casse aussi au plus haut point. Par contre, et c'était une de mes conclusions, mais on est bien sur le parcours de l'enfant. Dès l'école maternelle, et moi je dis, tant pis, allez, je vais mettre à mal plein de monde, c'est pas grave. Je dis qu'on devrait tous passer par la classe de petite section ou l'école maternelle pour travailler en mode projet, pour accompagner les enfants. Et l'enfant, c'est le même. Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qui, à un moment donné, fonctionne, dysfonctionne ? Ben, c'est peut-être ça qu'on a à réfléchir tous ensemble.
Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurence, ou je peux...
Non, vas-y.
J'y vais. Nous avons parlé du rythme de la journée qui doit être adapté au rythme de l'enfant, un temps pour le jeu, apprentissage avec des temps de repos. Qu'en est-il du rythme scolaire en général ? La semaine de 4 jours, les vacances scolaires de 2 semaines à peu près, hein, toutes les 6-7 semaines, et les vacances d'été trop longues. Faut-il revoir l'organisation de ce temps scolaire à l'année ?
Vous parlez de rêve, là, Sylvie, c'est ça, hein?
Ah, ben, pourquoi pas, on peut toujours, hein. Peut-être que Monsieur Papniade écoute l'émission.
Alors, le problème, allons-y. C'est qu'on a déjà essayé. On a ça déjà essayé pas, la semaine de 4 jours et demi. Ça a été un peu un fiasco, puisqu'on est tous revenus à la semaine de 4 jours. Oui, alors c'est vrai que donc nous, on avait cours le mercredi matin, comme beaucoup d'écoles. On remarquait quand même que les enfants de maternelle, en tout cas, nous, on les trouvait fatigués dès le jeudi, tout de même. Alors, c'est vrai, il y a quand même une partie des enfants qui vont quand même au centre aéré le mercredi, donc oui. Qui se lèvent quand même. Mais on ne leur demande pas la même chose au centre aéré. Mmh. Là. À l'école, on leur demande quand même beaucoup de concentration, etc. Donc, c'est quand même des journées fatigantes. Donc, je pense que... Enfin, moi, je tiens à la semaine de 4 jours. Je pense que pour les enfants de maternelle, en tout cas, elle est plutôt, voilà, plutôt adaptée.
Mmh. Alors moi, je me rappelle, les enfants avaient 4 jours et demi, mais c'était le mercredi repos total et l'école, c'était le samedi matin, ce qui permettait d'échanger avec les enseignants qui étaient pas mal. Maintenant, c'est compliqué de mettre les enfants le samedi matin pour les familles.
Oui.
Voilà, donc,
ils ne sont pas forcément présents le samedi matin.
Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez quand on nous dit que les vacances d'été sont trop longues?
Non, mais là, de toute façon, nous, on ne peut rien dire, parce que de toute façon, c'est business, business is business.
Voilà, tout à fait.
Bah, même voilà, pour, même pour dire, les vacances. Sans,
voilà, on n'a rien à dire, là, nous, dont acte. Voilà, on fait tout ce qu'on peut pour accompagner les enfants mieux. Laurence le dit, parfois, à des moments, on a des enfants fatigués. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, Laurence, et que je pense que la semaine de 4 jours et demi est vraiment très bien pour le travail, surtout les matins. Mais comme on ne pense pas le rythme de la journée, comme on ne pense pas le travail des familles, du coup, c'est fiasco aussi. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas tous travaillé ensemble, ce sera fiasco. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Tiens,
je sais pas, sur les vacances, peut-être.
Sur les vacances scolaires.
Les vacances d'été trop longues.
Voilà, ça, c'est tout ce qui est système économique. Et voilà, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra jamais rien changer. Voilà, je suis défaitiste quand je dis ça.
Non, mais c'est tout à fait ça. Hein. Alors, les associations de parents d'élèves prônent depuis des années la coéducation. La place des parents dans l'école. Comment faciliter l'accès? Comment faire participer les parents dans le suivi des activités?
Alors, moi, je pense qu'on communique quand même plus sur notre pratique qu'avant, parce que on en parle librement à la réunion de rentrée. Hein. Moi, j'explique ce que je fais, comment se déroule une journée, les activités de classe, etc. Et puis maintenant, on a quand même accès aux outils numériques avec le blog. Donc, ça permet aussi même aux parents qui sont peut-être un peu éloignés de l'école ou qui ne peuvent pas être présents, de voir ce qu'on y fait, ce qu'on s'y vit. Alors, j'y mets autant des temps forts, les anniversaires, etc., ou les activités un peu particulières. Mais des fois, je mets aussi sur le blog des activités de classe qu'on fait pour leur montrer un petit peu comment on apprend à l'école maternelle. Donc, je pense que c'est vraiment aussi des outils qui permettent la coéducation avec les parents.
Alors, j'ai oublié de dire une chose. Hein, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves prônent la coéducation, mais chacun a sa place. Attention, hein, les parents restent les parents et le professeur. Hein. Maryse, tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
Alors, complètement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que professeur, c'est un métier. Désolée. Donc voilà, chacun sa place, je confirme. Et par rapport à ce que dit Laurent, 4 verbes très importants quand on parle de coéducation. Et là, je reprends les travaux de Catherine Urtic-Delattre, que vous pourriez inviter d'ailleurs. Catherine dit « accueillir ». C'est tout le travail dont on a parlé avant sur l'accueil, une première scolarité ou en moyenne section. Deuxièmement, informer. On informe de ce qu'on fait. Et c'est tout ce que dit Laurence. On met des photos sur des activités de la classe. On donne des informations par rapport à une sortie. Dialoguer. C'est quand on a parlé de toute l'évaluation. C'est important de dire aux parents, d'échanger avec eux sur le comportement, sur des réussites, sur des faiblesses. Et le dernier, qu'on utilise pas suffisamment ce que dit Catherine, et je le pense aussi, c'est impliquer. Mmh. Comment est-ce qu'on implique les familles dans la réussite de leur enfant? Impliquer, c'est faire des choses ensemble.
Parfait. Alors, en janvier 2023, un plan d'action pour l'école maternelle est paru au bulletin officiel de l'Éducation nationale. Il s'agit d'un plan de formation pluriannuel afin de conforter le rôle des pratiques pédagogiques. Ce plan implique tout le personnel de l'Éducation nationale, les directeurs et directrices d'école maternelle, qui, eux, piloteront les projets pédagogiques de l'école, les professeurs de maternelle. Il y aurait donc un plan de 18 heures d'animation pédagogique, des priorités sur des domaines d'apprentissage durant les 6 ans de formation en priorisant les contenus. Ce plan d'action s'appuie notamment sur les plans français et mathématiques. Si vous deviez choisir une formation, quel serait votre choix? Le développement psychologique de l'enfant ou autre?
Alors moi, je réponds tous les ans la même réponse parce que effectivement, on nous demande nos besoins en formation.
Mais il n'y en a pas.
Ben non, mais si, mais français mathématiques, ça va, je commence à être au point. Mais apprendre à porter secours, par contre, il nous manque apprendre à porter secours. Alors qu'on a quand même en charge des enfants.
Oui.
Donc je trouve ça quand même assez urgent.
C'est vrai, oui, tiens.
Ouais, c'est vrai,
Laurence. Mmh, oui, tout à fait. On n'y pense pas, mais c'est vrai. C'est une sacrée responsabilité.
Mais bien sûr.
Ben surtout que maintenant, dans les écoles, il n'y a plus ni de médecin ni d'infirmière. Donc, c'est un peu compliqué aussi.
Alors, la plupart du temps, on a des petits bobos à soigner. Donc, voilà. Mais effectivement, ça mérite quand même une formation. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Maryse ?
Moi, j'irais les compétences psychosociales, hein, parce que c'est vraiment très, très important. Alors, il y a un plan, des mesures qui sont sorties. Je ne sais pas si on en aura de la formation, mais toute cette connaissance des compétences psychosociales, ça va nous aider effectivement à accueillir les familles, à échanger entre nous, être dans la bienveillance, dans l'épanouissement, à réguler le climat scolaire. Enfin, voilà. Là, c'est très important. Hormis les maths et les français, Laurent, je suis d'accord.
Mais justement, dans ce nouveau plan création de formation conjointe avec des experts de la petite enfance qui sont les éducateurs des jeunes enfants, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, on en parlait tout à l'heure, les ATSEM, des échanges organisés entre professionnels du secteur de la petite enfance et enseignants du premier degré. Qu'est-ce que vous pensez de ces options? Est-ce que c'est bien d'avoir pensé à ce genre de formation ou pas, d'aller vers effectivement les gens qui connaissent la petite enfance?
Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis entrée en contact avec la présidente nationale d'éducation des jeunes enfants, Madame Pichon. Ah non, parce que c'est vraiment très, très important. Je redis, l'enfant, c'est le même. Dès la garderie, à la maison, à la crèche, au sport, à l'école. Enfin, voilà, c'est le même enfant. Donc, on a tout intérêt à connaître, à se connaître. Je dis toujours, mieux se connaître pour se reconnaître. Bah, c'est très important pour pouvoir ensuite accompagner l'enfant. Toutes les formations pluricatégorielles, ATSEM, donc les agents territoriaux spécialisés d'école maternelle, les AESH, les assistants d'éducation qui sont là au service des élèves en situation de handicap, c'est important qu'on soit formés tous ensemble. Et pourquoi pas au premier secours, du coup.
Oui, en plus. Tu as quelque chose à rajouter, Laurence ?
Nous, on a signé une charte cette année en enseignant ATSEM pour remettre vraiment par écrit les rôles de chacun, les missions de chacun, comment travailler ensemble. Donc, c'est très bien, on n'avait pas spécialement besoin de cette charte pour faire déjà tout ça, mais en tout cas, ça remet un peu les choses. Travailler en bonne entente avec l'ATSEM, c'est important. Nous, on a la chance quand même dans notre école, on a 5 classes et 5 ATSEM, une ATSEM par classe. Donc ça, c'est vraiment un atout dans notre école. Et voilà, on travaille plutôt en bonne entente et c'est important, bien sûr. Et je pense qu'on peut effectivement étendre ça à la crèche. Bon, chez nous, ce n'est pas actuellement le cas, mais pourquoi pas mettre en place effectivement des passerelles. Ça peut faciliter l'arrivée des petits aussi à l'école.
En ce moment, c'est vrai, dans les médias, on parle beaucoup de harcèlement. Avez-vous déjà été confronté à une violence quelconque dans votre établissement? On en parle en classe, on fait des jeux sur les émotions et l'empathie. Comment vous travaillez dès que vous voyez, ça ne peut pas aller jusqu'au harcèlement, mais admettons des enfants qui se disputent, toujours les mêmes. Qu'est-ce que vous allez faire effectivement pour essayer un petit peu d'apaiser les choses?
Oui, alors, c'est compliqué. Alors, effectivement, j'ai pas tellement de cas d'harcèlement en maternelle. Hein. Ça, je l'ai connu quand j'avais des CM, effectivement. D'ailleurs, il y a un dispositif, le dispositif phare qui a été mis en place. Pour gérer ce problème. En maternelle, c'est plutôt, oui, des chamailleries. Alors, effectivement, on a des enfants qui sont bagarreurs. Hein. Là, ça mérite aussi de parler avec la famille hein, et de comprendre un petit peu pourquoi. Et parfois, on a besoin aussi de professionnels autres, hein, d'aller voir un psychologue ou autre, ou de solliciter le RASED. Tout ça, c'est important.
Tu peux rappeler le RASED ?
Le réseau d'aide spécialisé pour les enfants en difficulté.
En difficulté. Voilà. Mais il est toujours en place ?
Bien sûr, ce qu'il y a, c'est qu'elles ont un secteur très large, c'est compliqué parfois de les avoir, mais elles peuvent nous aider aussi, effectivement, pour ces enfants-là. Donc oui, c'est vraiment, c'est pas évident, mais c'est vrai, on essaye de faire comprendre aux enfants ce que peut ressentir l'autre, hein, donc l'empathie, de faire comprendre pourquoi il ne faut pas faire mal aux autres, etc. On discute avec eux, et puis effectivement, on est aussi un peu obligé de sanctionner. Hein. Ça, on peut pas, on peut pas laisser faire non plus des comportements trop dangereux, trop violents, bien sûr.
Vous faites des jeux de rôle, peut-être, non ? Pas encore.
Ça m'est arrivé d'en faire, oui. Selon les années, quand on a besoin, effectivement, on peut faire des jeux de rôle, oui.
Maryse, tu as quelque chose à rajouter ?
Oui, je veux bien. Parce que j'aimerais qu'on fasse la différence entre harcèlement, effectivement, c'est un mot que je n'aimerais pas qu'on utilise dès l'école maternelle.
C'est petit, oui, effectivement.
Ah, voilà, c'est ça. Et puis, les enfants qui pourraient avoir des gros problèmes de comportement. Je pense qu'il y a des... Voilà, on a deux choses à peut-être distinguer. Sur le harcèlement, on va dire des enfants qui ont des comportements et qui perturbent la classe, effectivement, c'est tout le travail, d'où l'importance des compétences psychosociales qu'on peut faire autour des émotions, de l'empathie, et là, que ça passe par de la littérature de jeunesse, que ça passe par du jeu de rôle, que ça passe par la roue des émotions, que ça, tu vois, on a plusieurs activités, des pistes possibles pour accompagner. Parfois, ce sont des enfants qui ne savent pas mettre en mots et qui ne peuvent pas mettre en mots parce qu'il y a un déficit de vocabulaire. Mmh. Expliquer ça, mettre en mots la colère, la tristesse, je suis déçue, je suis... Enfin voilà, toute la liste qu'on peut avoir autour des émotions, les enfants ne les ont pas forcément. Donc c'est à nous à les accompagner. On en revient autour du langage et du vocabulaire. C'est très important qu'ils puissent mettre en mots. Quand on ne peut pas mettre en mots, on pousse, on tire les cheveux, enfin voilà. Donc il faut qu'on distingue ces accès... C'est que ces enfants-là. Et puis après, les gros problèmes de comportement que nos collègues vont avoir, et d'ailleurs qu'on voit un petit peu plus suite à la Covid. Donc là, ce sont des problèmes de comportement liés à d'autres choses. Et effectivement, on a besoin des personnels de santé pour nous accompagner dans les classes. Après, je voudrais parler du conseil coopératif. Nous, on le met en place à Rouen, dans le cadre du congrès, accueillir, dire, agir ensemble. Et là, on aura vraiment sur ce congrès plein d'éléments de réponse via des conférenciers, des expositions pédagogiques et cette recherche-action qu'on met en place autour du conseil coopératif. Alors, j'allais dire, c'est tout un cadre qui est donné pour pouvoir accompagner les enfants, pour parler ensemble, pour réfléchir ensemble, pour poser les problèmes ensemble. Et 12 classes se sont engagées dans ce travail et on voit des progrès, justement, sur le climat scolaire.
Très bien. Moi, je voulais simplement dire aussi, le relationnel est très important hein, pour la réussite des enfants. Quelles sont vos astuces pour être aimé et apprécié des petits ?
Un. Les accueillir déjà avec le sourire, un bonjour, un petit compliment.
Est-ce que quand ils rentrent dans la classe, est-ce qu'ils disent bonjour ?
Oui, bien
oui,
sûr.
Ils sont polis, oui.
Oui, 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 oui. Quand on dit bonjour, oui. Les parents disent bonjour. C'est presque un rituel, en fait. Ça peut arriver d'avoir des enfants inhibés aussi qui ont du mal à dire bonjour. Un petit signe de la main peut prendre le relais.
Oui, on voit certaines classes, effectivement, il y a une petite pancarte avec soit on prend dans les bras, soit on se donne un petit coup de poing sympa. Voilà, des petites choses comme ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Oui. Ou un bisou pour dire bonjour. C'est sympa aussi.
Alors, le bisou est devenu moins à la mode avec le Covid.
Mode, mais... Avec le Covid, tout à fait. Ils ont un petit peu arrêté.
Mais c'est comment ? C'est bonjour Laurence, bonjour maîtresse. C'est comment ils
se souvent présentent ? Bonjour maîtresse. Bonjour
maîtresse, souvent, oui. Souvent, c'est maîtresse encore à cet âge-là. Hein. Oui.
C'est vrai. Mais c'est vraiment la posture, c'est l'empathie dont on parlait tout à l'heure. Hein. Vous savez, c'est notre posture. Mmh. C'est quoi la posture d'accompagnement ? Laurence le dit, dès que vous tendez les bras, ça y est, vous êtes là, vous avez le sourire, vous dites bonjour. Alors moi, j'aimais bien aussi, j'aime bien avoir mes petits colliers. Vous savez, les enfants adorent venir triturer les colliers, la couleur. Voilà, c'est notre engagement, c'est la posture d'engagement qu'on va avoir vers les élèves. Et moi, je dis toujours aux parents, alors attention, moi, je suis pas là pour aimer vos enfants, hein. Donc très attention et on en revient au rôle et à la place de chacun. Par contre, ça n'empêche pas l'empathie d'accueillir, d'avoir de l'humour, de rigoler voilà, avec les enfants comme avec tous les adultes aussi de l'école.
Mais alors on disait que l'école maternelle ne peut pas résorber les inégalités sociales. Hein. On voit d'ailleurs ces inégalités s'accentuent aux primaires et au collège. Mais au niveau des CP et CE1 effectifs réduits, hein, cela a permis quand même de mieux gérer les difficultés des uns et des autres. En classe maternelle, le ministère nous annonce des effectifs à 22 élèves, ceci étant une moyenne nationale. Donc je suppose que vous avez beaucoup plus que ça. Serait-il opportun, comme le disait tout à l'heure Jackie, de réduire les effectifs pour remettre l'enfant au centre du système éducatif.
Moi, je pense que c'est la priorité, en fait, quand vous demandez à un enseignant comment on pourrait améliorer le système, les conditions de travail, c'est bien souvent, c'est voilà, réduire les effectifs. Nous, on est entre, c'est moi qui en ai le moins cette année avec 27
Quelle
élèves.
Chance.
27, 28, 29, c'est les effectifs de cette année. Voilà, du coup, on ne peut pas donner le temps à chaque enfant comme on voudrait le faire. C'est ça le problème aussi. Et puis, justement, c'est le vivre ensemble, on en parlait tout à l'heure, c'est encore plus compliqué. Plus on est, plus c'est compliqué. L'espace, la gestion de l'espace, bah, plus on est, plus c'est compliqué. Donc, oui. Moi, je veux bien entendre une moyenne à 22 élèves, mais elles sont où les classes à 22
Maryse.
Alors, ça dépend des départements, on va dire, parce que moi, j'ai un département où, effectivement, la chute des effectifs est importante. Et en plus, avec les dédoublements des grandes sections, ça veut dire plus d'élèves en moyenne section et petite section. Donc, il y a des choses à revoir.
Oui,
effectivement,
ça.
L'effectif, c'est prioritaire.
Mmh. Cette année, on travaille avec une classe, elle a grande section de maternelle et CP.
Eh oui.
En primaire, voilà. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué
aïe, aïe,
pour
aïe,
l'organisation.
Aïe.
C'est ça. Tout à fait. Faut revoir effectivement tout ça. Il nous reste combien de temps, Luc ? 8 minutes. Alors, j'avais laissé une question de côté. Il suffit juste que je la retrouve. Ah oui, alors, en moyenne section et grande section, les journées sont sans doute plus axées sur l'apprentissage du langage et des mathématiques. On suppose que le jeu reste encore au centre des apprentissages, jeu qui était souvent critiqué comme étant une activité frivole, mais des recherches ont prouvé son efficacité dans le développement cognitif de l'enfant. Comment travaillez-vous l'apprentissage des fondamentaux? C'est ça qui serait intéressant aussi de dire à nos auditeurs, auditrices. Comment vous faites pour les travailler réellement?
Oui, le jeu, ça reste central. Et c'est vrai qu'en plus, il s'adapte à tous les domaines, je trouve. On fait beaucoup de jeux en mathématiques, ne serait-ce qu'utiliser un dé. Les enfants ne jouent pas forcément aux jeux de société, par exemple, à la maison. Donc, rien que ça, déjà, c'est un apprentissage. Avant, c'est un pion. On utilise des jeux en langage, des jeux de loto, en phono également, beaucoup de jeux, ou en motricité. Enfin, ça reste central. Et puis les enfants adhèrent forcément au jeu et là, ils apprennent même sans s'en rendre compte.
Mmh. Même dans les jeux d'imitation, en fin de compte.
Oui, tout à fait. Oui, c'est du langage aussi, l'imitation.
Maryse, tu as quelque chose à rajouter ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment apprendre en jouant. Et on sait, alors, à des moments, on va avoir besoin, quand on est sur le geste d'écriture, on est sur le geste parce que c'est de la technicité. Et là, les enfants acquièrent de l'automatisme au fur et à mesure. On apprend par le jeu parce qu'effectivement, on peut lancer une activité, on peut conforter une activité et les enfants adorent cela. En fonction des situations, de ce qu'on veut faire, on va avoir différentes postures et différentes situations d'apprentissage à mettre en place. Oui.
Et là, le dessin, je pense que le dessin est très important aussi.
Oui, tout à fait, mais tout est important. De toute façon, à l'école maternelle, c'est à nous à pouvoir proposer des situations qui permettent à l'enfant de pouvoir évoluer, avancer à son rythme.
Mais moi, je trouve qu'il serait intéressant, c'est de recueillir le mot qu'inventent les enfants qui sortent de ces écoles-là. Parce que moi, j'ai ma petite fille qui emploie des mots. Franchement, c'est magnifique, quoi. Ils n'existent pas dans le dictionnaire, mais ils en parlent et puis ils sont contents de les trouver.
Et des fois, ils sont très logiques, mais on les comprend.
Oui, ils sont très logiques.
Ah, mais bien sûr qu'ils sont très logiques, les enfants. Ils sont plus logiques que la langue française.
Oui, sûr. Alors moi, je vais vous poser la question, que manque-t-il à notre école maternelle pour l'épanouissement, le bien-être et la réussite de nos enfants ?
Rien.
Il manque
Ils
rien.
Ont tout.
Ils ont tout. Bon, ben, c'est parfait.
Ils ont des enseignants bienveillants, soucieux de leur épanouissement.
Qu'est-ce qu'on pourrait demander à Papniad ? Moi, je crois que ton association, Maryse, vous avez rencontré Papniad lors d'un congrès.
Il est venu, effectivement, monsieur le ministre, l'année dernière, au moment du congrès. Il venait d'arriver au ministère. Donc, il était présent au congrès à Boulazac, où il avait pu expliciter, effectivement, que le plan maternel allait arriver. Voilà, on n'a pas eu d'échange plus direct que cela. Il a pu rencontrer des enseignants, il a pu voir les travaux du congrès, notamment autour de la littérature de jeunesse, autour d'accueil, effectivement, d'enseignants qui pratiquent des expérimentations dans leur classe. Et moi, je veux dire à Laurence, mais si, comment tu l'année de colle maternelle? Moi, si, j'ai des choses à dire pour notre école maternelle. Nous, on a une citation à la JEM. Vous avez beaucoup de citations aussi, vous, et j'ai beaucoup aimé voilà, celle du début. Et nous, à la JEM, on dit « Seul, on va vite, ensemble, on va loin ». Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque le mot « ensemble » pour notre école maternelle. Ensemble avec l'institution, pour qu'on réfléchisse tous sur la formation. Et qu'on réfléchisse tous aussi sur le rythme, sur l'économie. Ensemble avec les parents, parce qu'en termes de coéducation, on a encore beaucoup à faire. Ensemble avec les collectivités, parce qu'on parlait d'aménagement des espaces, et là aussi, on a à réfléchir sur l'aménagement des espaces, sur la formation des ATSEM, sur le mobilier. Ensemble avec les partenaires, parce que les partenaires, que peut être mon association, mais beaucoup d'autres associations, on a à partager. Je dis toujours... 1 + 1 + 1 égale beaucoup. Et ben, c'est tout ça qui manque à notre école pour que ce ensemble fasse que cet enfant qu'on a à 2 ans, à 3 mois, à 6 ans, à 12 ans, à 18 ans, et ben, on fasse qu'il ait une vraie réussite, en tout cas, dans sa vie de futur citoyen.
Et quel était le thème l'année dernière du congrès quand M. Papniade est venu?
On était sur les aménagements du temps.
Ah!
D'accord. Sur la réflexion autour du temps. Oui. Et cette année, on sera sur les compétences psychosociales. D'ailleurs, Laurent, si tu as envie de venir, eh ben, je te ferai parvenir une invitation pour rejoindre le congrès. Et nous aurons Catherine Urti qui sera présente, Sylvain Connac, Agnès Flora, enfin, beaucoup en tout cas de conférenciers et de collègues qui réfléchissent autour de ça, accueillir, dire, agir ensemble.
Et ça se passe où ce congrès? Quelle date?
Passera du 5 au 7 juillet à Roanne.
À Roanne, du 5 au 7 juillet. D'accord. Est-ce que tu... Bon, puisque tu as rencontré Papniade, donc on va profiter de te poser la question. Est-ce qu'il a été sensible aux propos des conférenciers qui étaient là?
Alors, il n'a pas entendu les conférenciers qui étaient présents, parce que une visite ministérielle, ça ne se passe pas sur les 3 jours, hein, ça se passe sur un temps donné. Il a été très sensible aux travaux des collègues et aux échanges qu'il a eus avec les collègues. Alors notamment, je vois, c'était avec un livre de littérature de jeunesse où les collègues ont pu expliciter comment ils travaillaient sur le vocabulaire. Et puis, 2 collègues qui ont pu présenter comment elles travaillaient l'accueil, comme le disait Laurence, comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on anticipe l'accueil, comment est-ce qu'on le prépare. Donc, il a été vraiment très attentif à tout ça, oui.
Bon, c'est déjà parfait. Laurence, un petit mot de la fin?
Eh bien, merci pour votre invitation. C'était enrichissant et intéressant et de prendre toujours un peu de recul sur, sur ce qu'on fait, sur son métier. C'était intéressant, merci.
Mais nous, on était très contents de t'accueillir. Maryse, un petit mot de la fin?
Un petit mot de la fin. Alors moi, je tiens à vous remercier effectivement de l'invitation, de l'accueil, de cet échange avec Laurence. Et ce mot de la fin, c'est moi, je suis passionnée d'école maternelle. Donc je dis à tous, faites confiance aux enseignants parce que c'est vraiment très important. Et puis, à très vite, j'espère. Merci.
Oui,
et
puis merci beaucoup.
Merci Laurence.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Eh bien voilà, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement nos 2 invités. Cette émission Pédago Rando sera diffusée pendant le mois de juin, le vendredi 9 à 19h, le lundi 12 à 16h30, le samedi 24 à 17h et le mercredi 28 à 2h du matin. Merci Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulcien.fr. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un bon, on est Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire, on sera toujours...